Cinéma Libre. Une émission littéraire. Rencontre avec un auteur, un écrivain, un chemin d'écriture, un lieu, des lieux d'écriture. Bonjour Colette Brognard.
Bonjour.
Vous êtes dans les studios d'Antenne Doc et on est là ensemble un long moment pour parler de vos œuvres, de vos livres. Mais je dis de vos œuvres volontairement parce qu'il y a plein de choses à raconter. Il y a un collectif, il y a Art Bouge, il y a des parcours, des lieux comme on le raconte d'habitude dans cette émission. Mais il y a aussi des rencontres, des itinéraires particuliers, des personnes qui vous ont mis peut-être sur des chemins particuliers. Donc on va essayer d'entrer en confidence avec vous et, comme d'habitude, d'avoir une conversation libre. Colette Brognard, elle est née quand ?
Il y a un certain temps, dans le Lot. J'écris depuis que j'ai 15 ans à peu près, donc ça fait pas mal d'ouvrages. Et c'est vrai que j'écris dans des thèmes assez, enfin, dans des registres assez variés, et dans leur forme et dans les thèmes. Donc voilà, j'ai commencé par des poèmes, ça c'est traditionnel. Ensuite, je suis passée à des nouvelles et puis des romans. Et voilà, et là je circule entre romans, nouvelles.
Vous venez dans la région du Lot de temps en temps pour les vacances. Vous y avez une maison ?
Oui, j'ai une maison. J'y viens, disons, pour me ressourcer, puisque je suis du Lot par ma mère, en tout cas, et parce que c'est aussi des racines que j'ai choisies. Donc c'est à la fois des racines réelles et puis des racines auxquelles je tiens, parce que c'est important d'être enraciné. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai écrit certains ouvrages qui se situent dans le Lot, mais je n'écris pas que dans le Lot ou sur le Lot. Hein. Ça dépend des thèmes. Je sais varier, comme je le disais tout à l'heure, et la forme, mais aussi les sujets, même s'il est vrai, on retrouve des sous-thèmes dans mes ouvrages, bien évidemment.
Il y a des lieux d'écriture, bien sûr, entre les trois livres que nous avons sous les yeux, Aléas, le livre à l'envers, et Au lieu dit. Il y a des lieux où l'on va aller séjourner, nous aussi. Et puis, il y a le temps, qui est très présent aussi, qui est un thème qui vous est cher, je crois. Alors, je me disais, on pourrait peut-être tourner autour du temps, remonter le temps.
Oui, c'est vrai que le temps, c'est assez obsessionnel, peut-être parce que j'ai quelques problèmes à le gérer, et puis parce que le fait d'écrire, ça demande beaucoup, beaucoup de temps. C'est l'écriture, je crois que c'est un très gros mangeur de temps. Et en même temps, je pense que si j'écris, c'est en partie pour retenir le temps, pour marquer le temps, pour quelque part, oui, marquer. Mais c'est un peu contradictoire, parce que c'est vrai que parfois je me dis, mais qu'est-ce que je faisais dans les années, je sais pas, mettons 90, et puis j'ai l'impression qu'il y avait un grand vide, et en réalité, bah, il y avait de l'écriture, très très souvent, enfin c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment un choix, écrire, c'est vraiment... Enfin, c'est relativement banal ce que je dis, mais c'est un peu, on rentre en écriture comme en religion un petit peu. C'est vraiment des choix d'existence. Et voilà, donc c'est, enfin, en tout cas pour moi, c'est comme ça que je le vis, quoi.
Vous écrivez la nuit ?
Non, généralement non, parce que je suis pas du tout du soir. Donc non, j'écris pas la nuit, j'écris pas le soir non plus. Enfin, j'écris dans les moments où je peux écrire. Il n'y a pas vraiment de moment particulier. Mais pas la nuit a priori, non, vraiment pas. Et quand j'ai fréquenté des artistes qui vivaient la nuit de par leur métier, comme Léo Ferré par exemple, ou d'autres, c'était pour moi terrible d'être là au spectacle, puis de l'après-spectacle, et se coucher très tôt le matin. Et je me rappelle que quand je voyais le soleil se lever et que je voulais me coucher, j'étais vraiment très 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 mal. J'avais une impression terrible. J'entendais les oiseaux chanter et c'était terrible. Puis en plus, j'arrivais beaucoup de peine à dormir le jour, donc c'était assez fatigant. Les tournées, c'est assez fatigant, et de toute façon.
Alors, les artistes sont présents dans votre vie, on l'a compris avec Arbouge, dont on va parler un petit peu plus tard, parce que je crois que dans le temps, c'est quelque chose qui s'est conçu il y a une dizaine d'années à peu près.
Oui, même plus que ça, Arbouge, en fait, c'est une association qui avait été créée par des plasticiens, donc peintres, graveurs, sculpteurs, photographes, qui s'étaient réunis pour amener l'art un peu vers les gens, pour exposer en commun. Donc ça, c'était en 84 que ça avait été créé, par Rosine Chartrain d'ailleurs. Et puis ensuite, 10 ans après, ils ont commencé à travailler dans l'édition, c'est-à-dire de faire des sérigraphies et des lithographies. Là aussi, en se réunissant, ça facilitait les choses, bien entendu. Et ensuite, ils ont éprouvé le besoin d'avoir des catalogues, de faire des livres d'artistes également, c'est-à-dire qui associent à la fois des peintres ou des graveurs et des écrivains. Et de là, tout doucement, ils se sont dit, mais si on créait un secteur purement littéraire, ou du moins essentiellement littéraire. Et par contre, ils ont gardé comme objectif de faire que toutes les couvertures des livres soient faites par les artistes, et donc que le livre en lui-même soit un objet, un bel objet, et ça continue d'être un peu une idée d'amener malgré tout... l'art vers les gens, et que ce soit, et aussi mêler les écritures, que ce soit l'écriture, les mots, que ce soit les couleurs, les formes, etc.
Grand commandant en voyage, dans la boue des quartiers en ruine, sous le soleil monte la bruine, debout sur le toit de la cabine,
du camion rouillé qui l'emporte, aux gosses qui en chemin l'escortent. Il crie.
Vos vies valent pas très cher. Prenez une arme, marchez derrière.
Un joint, la route est dans le ciel. Je vois des avions présidentiels qui s'envolent au vent des frontières.
Moi, grand commandant, j'espère que demain, je prendrai le pouvoir. Alors, petits soldats, vous allez voir. En commandant grand militaire, vous sortira tous de la misère.
La misère, moi je te crois pas, dit un gamin. Quitte la route, sors du chemin. Plonge dans l'eau, entre les roches. Les balles ricochent.
Prenez la route, prenez des joints. Prenez des forces pour demain. Y avoir de la bagarre pour le pouvoir, mais...
Tous les gamins en ont marre. Marre d'aller crever au casse-pipe. Un jour, on lui piquera son slip. Le commandant fuira à poil. Devant sa petite bite, son trou de balle, on rigolera. Quand il fuira du sud au nord, Est-ce que nous, les gosses, on lui donnera la mort? Qui le jugera par Grandimas? Qui prendra le pouvoir à sa place? À sa place, ah.
Moi, le commandant, je fuirai à poil devant ma bite. Mon trou de balle rigolerait moins quand je reprendrai le pouvoir. Petit soldat, vous allez voir. Grand commandant, grand militaire, vous fera regretter votre misère.
La misère ? Commandant, on te prendra le pouvoir. Nous serons à ta place. On te piquera ton slip. Tu fuiras à poil devant ta petite bite. Ton trou de balle, on rigolera quand tu fuiras du sud au nord. Est-ce que nous, les gosses, on te donnera la mort? On te donnera la mort.
On va rester un petit peu avec Arbouche, puisqu'on en parle maintenant. Vous dites, je crois que c'est dans Aléas, que bon, c'est un parti pris effectivement de travailler sur des premières de couverture avec des œuvres d'artistes contemporains, que finalement peu d'éditeurs choisissent, hein, puisque ça leur coûterait plus cher que de travailler avec des images qui sont déjà un peu plus vieilles, même si elles sont, évidemment, on est d'accord pour le dire et le ressentir, absolument merveilleuses et remarquables, mais c'est peut-être plus facile de placer une Joconde sur une couverture de livre que de placer l'œuvre d'un plasticien contemporain, c'est cela ?
Oui, oui, assurément. Mais néanmoins, là, dans les deux dernières couvertures étaient vraiment abstraites et je pensais qu'éventuellement le public serait un petit peu réservé. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé. Les gens viennent très très volontiers, que ce soit pour Aléa ou pour le livre à l'envers, viennent tout à fait vers les couvertures et ça m'a tout à fait étonnée, même s'ils aiment beaucoup de me rendre bon, des couvertures plus traditionnelles comme celle d'Oliodie. Mais ça n'a pas du tout un effet négatif. Ça n'a pas l'air de les inquiéter et j'ai trouvé ça quand même très très positif. Et voilà, donc.
Les livres d'Arbouche, on les trouve sur les salons du livre ?
Oui, alors là, évidemment, d'ailleurs, ça permet aussi de parler de la dernière étape d'Arbouche, puisqu'on va essayer, enfin, on va avoir un local maintenant à la Bastide Murat, qui sera une galerie et une librairie associative, et où on montrera, ça va être inauguré le 16 mai, et où on va montrer les œuvres des artistes d'Arbouche d'une part, les livres également édités par Arbouche, mais aussi d'autres artistes, d'autres éditeurs un petit peu comme ça, qui ont pareil des difficultés pour se faire connaître. Donc ça, ce sera l'ultime étape pour le moment.
Oui, une actualité très proche, hein, le 16 mai.
Oui, tout à fait, oui.
Le livre à l'envers, qui porte aussi un titre qui fait penser au temps qu'on remonte. Alors avant la rencontre avec Arbouche, avant 84, qu'est-ce qu'il y avait dans la vie de Colette Prognard ?
Eh bien, effectivement, là, j'avais rencontré Léo Ferré depuis un certain temps déjà, puisque j'avais fait une thèse sur lui. Et j'avais accompagné Léo Ferré dans quelques tournées. Je faisais les éclairages, bien modestement, disons que je manipulais les manettes comme on m'avait dit de le faire. Hein, c'est pas moi qui ordonnais le spectacle. Et c'était très intéressant de suivre comme ça en tournée. On a fait des tournées dans différents pays, dont le Maghreb. Et c'est relativement surprenant quand on pense à ce qui se passe actuellement dans ces pays-là, de penser ça. Donc ça devait être ça dans les années, peut-être. J'ai du mal un peu à situer, mais toujours mon problème avec le temps. Mettons dans les années 80, par là. et même peut-être un petit peu avant, et vraiment Léo Ferré chantait, que ce soit au Maroc, en Algérie ou en Tunisie, chantait absolument les mêmes chansons qu'en France, donc aussi bien des chansons politiques, érotiques, etc. Il y avait un succès, le même succès qu'en France. Dans les salles, il y avait des gens, des femmes, des hommes, des enfants, enfin des très jeunes, disons. Enfin, et c'est assez ahurissant de penser ça à la lumière d'aujourd'hui. Là, pour le coup, on a l'impression, c'est un recul dans le temps, mais c'est pas un recul dans tous les sens, quoi. C'est vraiment très très surprenant. Et j'ai quelques photos faites pendant cette tournée, donc c'est vraiment. C'est pas mon imagination qui me joue des tours, c'est tout à fait une réalité.
Comment on fait quand on a une vingtaine d'années, qu'on écrit une thèse et qu'on décide d'aller voir Léo Ferré? On va taper à sa porte? Comment ça se passe?
En fait, j'ai d'abord écrit une maîtrise sur Léo Ferré, et c'est après avoir écrit la maîtrise que j'ai cherché à le rencontrer pour lui donner mon travail. Et c'était pas évident parce que j'allais très souvent à ses spectacles, mais arriver à passer en coulisses, il y a quand même des gens qui surveillent un peu les coulisses, et donc c'était pas toujours très facile. Il m'est arrivé de me faire un peu jeter. Et puis j'ai quand même réussi, cette fois-là, je pense, à amener ma thèse. Ça devait être à l'Olympia, je crois. Et Léo Ferré m'a dit « Merci, merci beaucoup, je vous écrirai. » J'étais évidemment complètement transportée, et puis le temps est passé de nouveau. Et puis il ne m'écrivait pas, alors je regardais la boîte aux lettres, etc. Et puis il ne m'écrivait pas. Alors un jour, je suis retournée, mais au bout d'un an, hein, parce que je suis quand même très patiente. Et j'ai essayé de retourner le voir, et puis il m'a dit « Oui, j'ai pas pu écrire, mais bref. » Et puis voilà, et puis là, je crois qu'il est à l'Opéra Comique à ce moment-là, et je suis allée voir beaucoup ses spectacles à l'Opéra Comique. Et puis on a noué après des relations d'amitié. Et il m'a demandé à ce moment-là d'écrire d'ailleurs le livret du coffret pour les poètes qui était chez Barclay, qui était... C'est une œuvre très belle où il a mis en musique Verlaine, Rimbaud, Apollinaire, Aragon. Donc c'est vraiment un très très beau disque et CD maintenant. Et quand c'était donc à coffret, il y avait ce livret où j'ai écrit en comparant, disons, les vies de tous ces poètes à Léo, ce qu'il y avait de similaire dans toutes ces vies, d'ailleurs entre eux, disons, parce qu'on trouve des similitudes, et ce qu'il y a de différent. Voilà, c'était ça l'objectif. Les uns par les autres, je crois que j'avais intitulé ce livret.
Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie, cette rencontre? Oh, je parle d'écriture, Colette. Qu'est-ce que ça a... Ça a levé des tabous? Ça a levé des blocages?
Alors, c'est compliqué, parce que quand je m'intéressais à l'œuvre de Léo Ferré, je connaissais pratiquement tout par cœur. Le fait que ce soit en musique, ça aide bien sûr à mémoriser. Hein. Donc, je connaissais vraiment les choses par cœur, et il suffisait que j'entende un mot, et pouf, ça déclenchait tout un texte. Et donc, j'étais très, très habitée par Léo Ferré. C'était comme d'autres personnes, d'ailleurs, de ma génération, parce que de temps en temps, j'en rencontre qui ont vécu cela aussi. Et c'était pour nous vraiment un maître, ça tombe mal puisque lui il était plutôt pour ni Dieu ni maître, mais c'était pour nous une aide vraiment, et on est plusieurs à l'avoir ressenti comme une façon de se tenir debout dans un monde qui était déjà pas facile, hein, contrairement à ce qu'on dit actuellement, parce que les gens ils oublient vite, mais où il y avait autant certainement de difficultés, enfin pas autant, mais il y avait beaucoup de difficultés, hein, d'ores et déjà il y avait du chômage, il y avait tout cela. Dès 1974, hein, il y a du chômage à cause du choc pétrolier, ça. Enfin bon, donc, et puis il y avait tout ce qui se passait d'injustice et de souffrance. Et Léo Ferré en parlait beaucoup et brocardait beaucoup ça, soit dans des textes humoristiques, comme Les Temps Difficiles, par exemple, soit dans des textes poétiques. Et ça nous aidait, c'était pour beaucoup de gens une manière, c'était vraiment une manière de un peu un maître à penser. Et alors ça, c'était à la fois très bien, mais quand il s'agit d'écrire, là, ça devient très envahissant. Parce que j'étais vraiment complètement habitée, et pour écrire, on ne peut pas être habité comme ça. Hein. Et j'ai par la suite connu pas mal de gens qui l'avaient connu, des écrivains, entre autres, ou des chanteurs, et qui, je sens qu'ils sont presque possédés, disons, hein, par Léo Ferré, et ça donne quelque chose d'assez étrange, quoi. Ils arrivent même parfois, certains, à lui ressembler, la manière de s'exprimer, dans la voix et dans l'écriture. Et ça, c'est assez troublant. Et moi, quand même, très vite, j'ai senti qu'il fallait absolument que je casse cette dépendance, absolument. Et puis, il y avait néanmoins bon, des aspects de Léo Ferré qui, pour moi, étaient un peu difficiles, parce que c'était... il avait la génération de mes parents. Donc, il y avait un décalage d'âge. Bon, moi, j'étais pas mal féministe. Et parfois, il y avait des propos qui me paraissaient un peu désagréables, un peu... Et voilà, donc je me révoltais un petit peu. Il m'écoutait hein, quand je disais des choses. Alors, avec toute mon insolence de 25 ans, à ce moment-là, disons, je disais parfois des choses parce que j'étais en colère, quoi. Que je n'oserais pas dire maintenant, j'ai l'impression. Enfin, je ne sais pas. Oui. C'est vrai que quand on a 25 ans, on balance des choses assez vertement, quoi.
C'est affaire de décor, changer de lit, changer de corps. À quoi bon, puisque c'est encore moi qui moi-même me trahis, moi qui me traîne et m'éparpille, et mon ombre se déshabille dans les bras semblables des filles où j'ai cru trouver un pays. Cœur léger, cœur changeant, cœur lourd, le temps de rêver est bien court. Que faut-il faire de mes jours? Que faut-il faire de mes nuits? Je n'avais amour ni demeure, nulle part où je vis ou meurs. Je passais comme la rumeur, je m'endormais comme le bruit. Est-ce ainsi que les hommes vivent? Et leurs baisers au loin les suivent? C'était un temps déraisonnable, on avait mis les morts à table, on faisait des châteaux de sable, on prenait les loups pour des chiens, tout changeait de pôle et d'épaule. La pièce était-elle ou non drôle? Moi, si j'y tenais mal mon rôle, c'était de n'y comprendre rien. Dans le quartier Hohenzollern, entre la Sarre et les casernes, comme les fleurs de la luzerne, fleurissaient les seins de Lola. Elle avait un cœur d'hirondelle sur le canapé du bordel. Je venais m'allonger près d'elle dans les hoquets du pianola. Est-ce ainsi que les hommes vivent? Et leurs baisers au loin les suivent?
Le ciel était gris de nuages, il y volait des oies sauvages qui criaient la mort au passage au-dessus des maisons des quais. Je les voyais par la fenêtre, leur chant triste entrait dans mon être et je croyais y reconnaître du Rainer Maria Rilke. Elle était brune et pourtant blanche, ses cheveux tombaient sur ses hanches, et la semaine et le dimanche, elle ouvrait à tous ses bras nus. Elle avait des yeux de faïence et travaillait avec vaillance pour un artilleur de Mayence qui n'en est jamais revenu.
Est-ce ainsi que les hommes vivent et leurs baisers au loin les suivent?
Il est d'autres soldats en ville, et la nuit montent les civils. Remets du rimmel à tes cils, Lola, qui t'en ira bientôt, encore un verre de liqueur.
Ce fut en avril à 5 heures, au petit jour que dans ton cœur, un dragon plongea son couteau.
Est-ce ainsi que les hommes vivent? Et leurs baisers, au loin, les suivent? Des soleils révolus.
Et Colette, à l'école, ça donnait quoi?
Alors, à l'école, j'ai démarré assez mal dans ma carrière scolaire et je me suis donc rattrapée par la suite parce que j'ai vraiment. Je rentrais par les petites portes de l'école, par l'enseignement technique, entre autres, et c'est vrai que c'est pas facile. Et puis après, j'ai grimpé vraiment les échelons un à un. Et puis bon, j'ai donc terminé avec un doctorat, donc une double formation, donc à la fois technique et littéraire, ce que je trouve demeurant bien, parce que ça permet de toucher à beaucoup de choses et à être opérationnel dans beaucoup de domaines, ce qui peut aider beaucoup d'ailleurs pour faire des livres. Voilà, et puis maintenant, bah, je suis professeur, donc je suis encore à l'école.
Chapitre 2, le livre à l'envers, Colette Brognard. Je trimballe mes poupons, poupées et ours dans un berceau en bois le long du couloir en psalmodiant. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. J'aboutis dans la cuisine où ma mère frotte le linge sur une planche à laver. Agacée, elle m'exhorte à l'imagination. Fais quelque chose.
Alors, je cogne les murs avec le berceau, les pieds ou les fesses. Les images m'envahissent. Chocolat, figues sèches. J'ouvre doucement la porte du placard de l'entrée. Un morceau, deux morceaux. Plus bas, les figues sèches destinées à mon père. Une figue, deux figues. Une petite soif me conduit vers le buffet de la salle à manger. Là, sans bruit, je me sers un petit verre de gnôle. J'y trempe un sucre, deux sucres. Mais je demeure insatisfaite et maussade. Ma mère appelle cet état « avoir la gueule au désespoir ». Quand les cris sont plus fortes, j'ouvre la grande armoire de la chambre de mes parents. La porte grince dangereusement, ainsi que le tiroir qui m'intéresse. La boîte de pastilles plus molles et des plus bruyantes, avec ses pièces de monnaie jaune, j'en prélève quelques-unes. Parfois, je renifle les parfums rangés dans la commode, surtout l'essence de rose contenue dans un petit tube de verre serti à l'intérieur d'un cylindre de bois peint, terminé par un dôme. Mes poupons, poupées, nounours, constituent la famille Arititi. Incapable de prononcer les queues, j'altère le nom Rikiki. J'ignore qui est ce Rikiki. Un pas grand-chose sans doute, un presque rien. Lorsque le printemps arrive, une vague de bonheur me soulève. De même à l'automne, ou par un jour glacé d'hiver ou torride d'été. Cette redécouverte annuelle des saisons épaissit le temps. Quatre saisons, quatre jours de bien-être. Un peu plus quand le printemps s'y reprend à plusieurs fois. C'est peu, d'autant que je nomme jour ce qui n'est souvent qu'instant. J'ai connu cependant des moments intenses. Lors d'une promenade au jardin du Luxembourg, ce qui m'entourait prit tout à coup un relief singulier. Une réalité rayonnante envahissait tout l'espace. Nulle apparition, nulle voix, mais une luminosité, une intensité, une sensation extrême, une symbiose. Un ami m'accompagnait. Il ne s'aperçut de rien. Je ne crois pas avoir revécu quelque chose de semblable. Était-ce un signe? J'ai lu un récit similaire chez un auteur. Curieusement, je ne sais lequel. Il était tout autant incapable d'expliquer ce phénomène. Ces souvenirs installent dans l'attente et la frustration pour toujours. L'intensité d'alors erre-t-elle dans ce jardin autour des statues et des bassins? Rechercher l'endroit exact. Et si c'était une autre dimension du temps?
Des lieux aujourd'hui où vous aimez retourner, Colette?
À vrai dire, actuellement, quand je retourne quelque part, c'est dans le Lot. Donc, c'est pour l'instant, c'est vrai que j'ai envie éventuellement de retourner en Italie, où j'ai été avec Léo Ferré. J'ai parfois un peu cette nostalgie. Puis aussi, j'ai de temps en temps envie de découvrir des lieux que je ne connais pas, pour le coup. Et je voulais aller à Prague à cause un peu de Kafka. Et je suis allée à Prague, donc il y a un an et demi. Donc je fais comme ça de temps en temps des petites échappées, des petites fugues. Et puis bon, je reviens avec pas mal d'images. Et bon, j'aime bien ça aussi, découvrir des lieux nouveaux. Mais je peux aussi découvrir des lieux sur un périmètre de, je sais pas, 10 kilomètres.
En écriture, vous flottez dans quel territoire? Vous imaginez tout? C'est très autobiographique?
Ça dépend un peu des ouvrages, hein, quand même. Alors, il y a, bon, dans le livre à l'envers, par exemple, la partie que j'ai lue là, elle est volontairement autobiographique, mais c'est tout un jeu qui est là-dessus dans le livre à l'envers, puisqu'en fait, il y a une histoire complètement imaginaire, et puis, il y a de temps en temps des allers-retours dans une mémoire, un peu comme une voix off, avec une narratrice, on ne sait pas très bien ce qu'elle fait, hein, puisque c'est un peu le système de construction de ce livre, et après, il va y avoir des indices pour passer des chapitres en chiffres romains qui relatent une histoire un peu humoristique, disons, qui se passe d'ailleurs dans le Lot, à Cahors et à Gramma. Et puis, il y a les parties en chiffres arabes qui sont une réflexion beaucoup plus large sur l'existence, le temps, effectivement. Et donc là, il y a un va-et-vient dans ce livre-là. Et j'oublie le
et un chassé-croisé.
Un chassé-croisé.
Je disais les territoires en écriture. Donc
oui, alors par rapport à l'imaginaire et au réel. Donc là, c'est volontairement mêlé et embrouillé et retourné. Il m'est arrivé dans La Faille, par exemple, d'écrire, de vouloir vraiment complètement inventer, que ce soit absolument pas autobiographique. C'était une volonté de ma part, donc je voulais écrire. Alors là, le temps est présent dans ce livre, puisque le temps est rétréci, l'espace aussi. Ça se passe dans une grande ville pas nommée. Et là, pour le coup, c'était vraiment très, très imaginaire. Et quand je l'ai porté, entre autres, à Guimard, il avait beaucoup aimé ce livre, et il m'accueille et il me dit « c'est complètement autobiographique ». Alors là, j'étais absolument furieuse, puisque moi, j'avais, pour mon compte, complètement imaginé. Je ne voyais pas comment, vu ce qui se passe d'étrange dans ce livre, en plus, je ne voyais pas comment ça pouvait être perçu comme ça. Alors j'étais vraiment tout à fait furieuse, et je suis rentrée chez moi, et j'ai retravaillé ce texte en le réécrivant au masculin, et à la troisième personne, je crois, du masculin. Et par la suite, j'ai envoyé de nouveau le manuscrit dans plusieurs maisons d'édition. Et les maisons d'édition me répondaient en disant « Monsieur ». Donc apparemment, il marchait tout à fait, quoi. Parce que comme dans ce livre, il se passe vraiment des choses étonnantes. Il y a un poisson sous l'armoire normande. Enfin, un certain nombre de choses bizarres, malgré tout. Ça m'avait vraiment ahuri qu'on puisse dire ça. Alors là, à partir du moment où j'ai changé en fait de le jeu en « il », Plus jamais on m'a dit cela.
Ça vous ennuyait?
Ça m'ennuyait parce que je m'étais forcée de faire vraiment œuvre d'imagination, et puis je voulais dénoncer ce qui me paraissait être très dangereux, ce qui se passait dans notre époque. Enfin, c'est déjà un petit moment. Je me disais, mais il y a plein de choses effarantes et les gens n'ont pas l'air d'avoir peur. Donc en fait, je voulais leur communiquer un peu ma peur pour qu'ils soient vigilants. Donc c'était un livre assez prémonitoire en réalité, et puisque je pense que maintenant les gens ont peur, mais à ce moment-là, je pense pas qu'ils avaient peur. Et donc, comme j'avais fait vraiment cette œuvre dans ce but-là, avec des choses tout à fait extravagantes et qui devaient interpeller, qu'on puisse me dire que c'était autobiographique, ça me contrariait énormément.
Oui, ça obstruait un peu l'objectif, mais ça le rendait moins puissant finalement.
Certainement, oui.
Qu'est-ce qu'il y avait comme choses qu'est-ce qui vous hérisse le poil? Qu'est-ce qui vous fait gronder?
Dans ce livre-là, c'était un livre qui tournait sur la peur, sur la passivité et sur la solitude. Et donc, je poussais un peu tout, en fait. Je prenais un peu des choses du réel en les poussant juste un tout petit peu. Et ça suffisait pour que ce soit effrayant, en réalité, hein, juste un petit peu plus. Et je pense que maintenant, le temps s'est chargé de pousser les choses un tout petit peu plus, quoi.
Donc, qu'est-ce qui vous met en colère, Colette, aujourd'hui?
Alors, en colère, je pense, malheureusement, je suis d'une nature assez colérique. Et c'est à la fois bien d'être en colère, mais... c'est un petit peu dangereux parce que les gens sont, n'aiment pas trop, je crois, les gens qui sont en colère. Ça leur fait peur, ça. Peut-être ça les, ils se sentent mis en cause. Enfin, moi, je suis quelqu'un de très passionné, donc c'est vrai que je peux être très vite en colère quand même. Et ce qui me met en colère, ben, c'est l'injustice d'une part, la bêtise d'autre part. Donc, c'est dire que chaque jour apporte son lot de colère, plus ou moins rentrée, généralement rentrée quand même. Mais quand j'explose, ça peut être très, très violent. Et donc, parfois, l'écriture, c'est vrai, c'est une manière d'écrire mes colères. Par exemple, il y a aussi, quand je suis dans des salons du livre, je me mets souvent en colère. Compte tenu de ce qui se passe dans le monde de l'édition, parce que c'est très grave dans la diffusion qui est de plus en plus concentrée et qui fait de moins en moins de place aux petits éditeurs éventuellement, et disons à la vraie littérature. Ça me met en colère de voir que c'est toujours les mêmes personnes qui sont encensées. Bon, là, j'étais au Salon du Livre de Paris. Alors, les petits éditeurs sont complètement tassés dans un coin, tout à fait excentrés. Et néanmoins, ça n'empêche pas qu'il va y avoir des conférences sur la micro-édition. Il va y avoir des articles en disant « Oui, oui, ceux qui font vraiment un vrai grand travail de création, c'est les petits éditeurs. » Alors, il y a à la fois tout ce discours encensé par un certain nombre de médias, qui se donne bonne conscience, comme ça, une fois l'an, mais le reste du temps, et même au Salon du Livre, jamais ils viennent voir justement les petits éditeurs ou les gens qu'ils ne connaissent pas. Ils vont aller voir les gens connus. Et puis, il y a aussi le public, alors pas tous, ça, bien entendu, mais il y a des gens qui font la queue devant une vedette, une star, il faut la queue pour avoir le livre signé. Puis à côté, il y a d'autres gens qui sont là, tout seuls, devant des allées désertes. Et bon, comme moi, je suis quand même une lectrice, hein, je lis beaucoup. Je sais parfois qu'ils ont tort de faire la queue à cet endroit-là. J'ai vraiment envie de leur dire, laissez tomber, venez voir plutôt d'autres livres. Alors, de temps en temps, je le dis d'ailleurs. C'est vrai que de temps en temps, dans les salons, on finit un peu par des petits. On se connaît un petit peu. De temps en temps, on plaisante et on essaie un peu de se consoler par l'humour. Et j'ai écrit dans Aléa pas mal de textes assez humoristique et caustique sur ce monde-là.
Oui, c'en est plutôt plein même. Ça regorge, on sent que oui, vous êtes vidé là.
La première partie d'Aléa tourne de l'écriture. Donc, alors, il y a à la fois les éditeurs, parce que c'est vrai qu'il y a des choses quand même très très dures à vivre. Il y a les salons du livre aussi qui sont parfois assez étranges. Et voilà, mais j'ai pas fait le tour encore. Et chaque fois que j'ai une grosse colère, c'est vrai que ça peut faire naître une petite nouvelle dans ce registre-là. Mmh. Il y a des registres avec les animaux, je suis tendre, hein, je donne pas
oui,
que
alors
dans
justement,
la colère.
Dans Aléa, il y a, toutes les dernières pages sont pleines de vos rapports avec les chats, notamment,
hein, oui,
les grisous, tous les minous du coin. Il y a des choses très jolies. Il y a un texte aussi qui s'intitule La pendule. Vous frappez à l'improviste chez des amis, il n'y a personne, donc vous repartez sous une pluie violente, vous entrez dans une salle des ventes. On en lit un petit passage, vous voulez bien ?
Le commissaire-priseur invite le public à prendre place. C'est un spectacle aux nombreux personnages dont je n'identifie pas bien les rôles, pleut-il encore. Le tintement d'une pendule me rappelle à l'ordre. Sa sonorité me bouleverse. Elle ne ressemble pourtant pas à celle du carillon qui me plongeait jadis dans une profonde tristesse. Cette pendule émet des sons aigus, grenus, précipités. Je l'examine, tandis que les enchères montent. Elle est affreuse. Je n'aime pas les pendules. Sauf celles en pied, si les formes sont légèrement galbées, si le cadran et le balancier sont discrets. Je déteste les cartels, les carillons, les coucous, mais je ne puis me passer de montre et enclenche deux réveils par sécurité chaque fois qu'il le faut. Pour en revenir à cette pendule, elle ressemble par sa forme joufflue et sa couleur bleue foncée à un vase funéraire, aux dorures brillantes et tarabiscotées. L'ensemble avec les deux autres vases est encore plus rococo. Le commissaire, ravi par l'arrivée de ces deux vases, relance l'enchère. Je gagne la sortie. pour échapper à la poussière des ans, au parfum de mort et à l'atmosphère confinée et compassée de la salle. J'éprouve alors, sur la nuque, une pesanteur, comme lorsque quelqu'un vous observe par derrière. Je me retourne, le public regarde l'estrade et le personnel continue d'officier. Un surprenant effet de zoom colle mon front contre le verre de la pendule. Je lève la main. 609 euros, une fois, 609, deux fois, qui dit mieux, adjugé. Comment ? Ça, 609, cet engin, cette hideuserie, quelle horreur ! M'enfuir, sauter les marches, partir en courant. On m'encadre avec déférence, on me conduit dans une petite salle attenante, je remplis le chèque, les joues en feu, la gorge sèche. Une fois dehors, les deux lourds cartons au bout des bras, je renonce à retourner chez mes amis. Comment passer cet épisode sous silence ? Comment expliquer ce bras levé ? Car je l'ai levé. Je n'ai pas perdu l'équilibre. Je ne cherchais pas à me gratter l'occiput. Mais je ne voulais pas davantage acquérir cet objet. Si je l'appréciais, je dirais, c'est une folie, mais je la trouve tellement belle. Certes, la somme n'est pas vraiment astronomique. Cependant, mes finances ne me permettent pas ce genre de débordement. Dans la voiture, pestant, maugréant, je passe les vitesses brutalement, roule à une allure parfaitement imbécile, ce qui n'empêche pas nombre d'automobilistes de me dépasser, à croire qu'ils ont tous acheté une pendule. D'où, sans doute, l'expression familière « en faire une pendule ». Cette expression, incompréhensible une heure plus tôt, me semble maintenant d'une justesse et d'une finesse absolue. Cette pendule va donc en fait se décaler et elle va remonter le temps. Et dans un premier temps, donc je me demande si je vais finir en barboteuse. Et dans un deuxième temps, je comprends qu'en fait, chaque fois que je pense à quelque chose, la pendule, elle obéit à ma pensée. Et donc, elle me transporte de temps en temps en arrière, dans le temps, de temps en temps en avant. Et évidemment, dès que je comprends cela, je suis terrifié parce que je me dis que dès que je penserai au futur, un futur un peu lointain, je me rapprocherai inexorablement de ma mort. Et en fait, je décide de l'emporter le plus loin possible et de m'en débarrasser. Voilà. Et donc, à la fin, ayant vécu toutes ces frayeurs, je fuis à toutes jambes, honteuse et soulagée. Je rentre chez moi à bout de souffle. Est-ce l'âge ou la course ? Je me précipite vers le miroir. Ouf, j'ai sensiblement le même visage que la veille. La brève évocation de ma mort a rétabli la situation en accélérant le temps de 10 ans, soit à peu près le présent, à moins que...
En ce moment, vous travaillez sur un texte long aussi ?
Eh bien non. Pour la première fois depuis très 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 longtemps, depuis des années, je n'ai pas de livre en cours d'enclenché. Et ça commence à m'inquiéter terriblement. Parce que jusqu'à présent, j'avais toujours des livres que je relisais, que je réécrivais, mais j'avais quand même des livres qui avaient démarré. Donc en fait, c'est vrai qu'entre la première version d'un livre et sa publication, il s'écoule pratiquement 10 ans, puisque je m'occupe des livres précédents éventuellement au niveau de la relecture, parce que j'ai un métier qui me prend beaucoup de temps. Et donc ça, je déplore de mettre 10 ans. Hein. J'aimerais pouvoir m'y consacrer bien plus. Et je pense quand même que je pourrais réduire de la moitié, disons, en tout cas. Mais là, je n'ai rien du tout, si ce n'est quelques nouvelles. Bon, j'écris quelques nouvelles, comme ça, éventuellement quelques poèmes. Encore ça, c'est plutôt rare. Et à la fois, je me dis que c'est bien parce qu'il faut... renouveler ses préoccupations, le vocabulaire, enfin, parce que je ne veux pas faire éternellement le même livre, hein, je voudrais progresser, et puis, enfin, progresser dans ma démarche, parce que le livre à l'envers, c'est un peu une sorte de livre bilan, un petit peu, par rapport en tout cas à ce qui est dit sur l'écriture. Mais là, je sens qu'à un certain moment, ça va être très, très angoissant. de ne pas avoir un livre en cours. Alors bon, je sais pas comment. Pour l'instant, comme quand un livre est né, il faut quand même aussi s'en occuper. Hein. Il faut essayer de l'amener vers les lecteurs. Et ça, c'est forcément du temps, et c'est un temps légitime, parce que ça sert à rien d'écrire si on rencontre pas les lecteurs. Enfin, le livre, il doit rencontrer son lecteur et ses lecteurs. Hein. C'est ça, c'est ainsi qu'il existera. Et donc, c'est nécessaire absolument. Donc là, bon, le livre à l'envers étant sorti depuis 6 mois seulement, je me dis bien, tout ça pour l'instant c'est bien, mais je pense que je vais commencer à être mal.
Vous posez une question intéressante en ce qui concerne l'écriture. On ne se la pose pas beaucoup, je trouve. Quand est-ce qu'on en a vraiment fini avec un livre? Quand on a terminé un livre, quand on a posé le dernier mot ou la dernière correction, est-ce que c'est vraiment fini? Bon, évidemment, il y aurait certainement 10 000 réponses et des réponses tout aussi différentes qu'on aurait d'auteurs devant nous, mais quand est-ce qu'on en a vraiment fini avec un livre?
Je pense qu'il y a un moment où on est effectivement content de dire, bon, allez, il est terminé, et puis de le soumettre aux autres, en fait, hein, au regard des autres, et puis de s'en libérer un peu, parce que c'est quand même une contrainte terrible. Enfin, pour moi, les romans en particulier, c'est quand même très, très lourd, ça. Puis, dans la mesure où je mets très longtemps à les écrire, il faut quand même être à peu près dans le même état d'esprit, malgré tout. Enfin, il faut pas se déjuger sans arrêt. Or, en 10 ans, on change quand même. Donc on ne peut pas éternellement réécrire sous prétexte qu'on n'est plus comme on était quand on a commencé le livre. Donc c'est assez compliqué de trouver un juste, avoir à la fois un regard critique et pouvoir améliorer, et en même temps rester quand même dans ce qu'il a porté à un moment donné, quoi. Et donc ça, c'est pas du tout évident. Donc je crois qu'à un moment, bon, moi je suis contente de dire ça y est, il est terminé. Mais presque aussitôt après, dès qu'il apparaît sous sa forme de livre, plus de manuscrit mais de livre, et que je le relis, et là, mon regard est complètement différent, parce que tout à coup, il existe vraiment, et je suis un peu plus extérieur, et là, je commence à avoir des angoisses, parce que je me dis, mais à tel endroit, là, il y a ce mot-là, je le réutilise alors qu'il était déjà à telle page, et je commence à noter ce qu'il faudrait modifier. Et là, c'est bien et pas bien qu'il soit imprimé. S'il n'était pas imprimé, je crois que je le retravaillerais. Et c'est un peu sans fin. Alors, il y a des auteurs qui ont écrit comme ça très peu d'ouvrages et qui les ont vraiment peaufinés à l'infini. Certains même ont écrit un seul ouvrage, hein, donc ça existe. Pour le livre à l'envers, bon, il y a quelques petites imperfections, c'est sûr, certainement. Mais il y a d'autres livres comme L'autre côté qui traite des disparitions volontaires, donc les gens qui partent pour refaire leur vie. Alors celui-là, c'est autre chose. En le présentant dans les salons, pour le coup, aux gens, je m'aperçois que j'ai pas fait le tour de tous les possibles de ce livre, en ce sens que ça traitait des disparitions volontaires, et autour de ça, c'est un phénomène important, hein, qui est important en France et plus encore dans d'autres pays comme le Japon, par exemple. Mais je m'interrogeais sur, est-ce que quand on change de pays, de nom, de tout, est-ce qu'on peut véritablement devenir autre? D'où le titre « l'autre côté de la frontière, l'autre côté de soi », etc. Et dans ce livre, après, je traite en fait d'autres thèmes, d'autres personnages qui ne sont pas forcément des disparus, mais qui sont éventuellement des créateurs. En me disant que des créateurs, quelque part, un peintre, un écrivain, il se crée autre par sa création, il se fait autre. Et même les lecteurs, d'ailleurs, quand ils lisent un livre. Et donc, je cherchais tout ça. Donc, en fait, j'ai mêlé des personnages qui deviennent autres par d'autres biais, éventuellement, que la disparition classique. Et de ce fait, j'ai inventorié d'autres choses. Par exemple, il y a 2 jumelles à un moment, parce que la jumélité, c'est aussi quelque chose d'incroyable, puisqu'on est à la fois 2 et 1, et il y a un jeu de miroir. Donc, dans ce livre, il y a tout un jeu de miroir, il y a vraiment plein de facettes, c'est un peu construit comme un puzzle. Et ça se passe à Buenos Aires, qui est une ville elle-même assez mystérieuse, souterraine. Et bon, ça fait aussi référence à des auteurs latino-américains que j'aimais bien. Donc on n'est pas obligé de les connaître pour lire le livre. Et en parlant de ce roman, ça interpelle beaucoup les gens, hein, ce thème. Très souvent, je me dis, oui, en effet, j'aurais pu parler de telle et telle chose. Les gens même me donnent des idées. Et de temps en temps, je me dis, bon, ben, c'est bien, finalement, je vais pouvoir réécrire un livre sur ce thème avec une autre approche, peut-être, ou le prolonger carrément, faire un tome 2, après tout.
C'est une source qui ne se tarit pas.
Voilà, c'est vrai que c'est un thème très très riche et très... Et alors pour un écrivain, enfin je crois que c'est fascinant un peu pour tout le monde, et pour un écrivain c'est aussi en fait rencontrer des gens qui se font eux-mêmes autres, qui se font leur propre personnage, puisqu'ils vont choisir un pays, souvent lointain, ils vont se prendre un nom, ils vont s'inventer des fois une tenue qu'ils n'avaient absolument pas, changer de métier. C'est comme s'ils créaient un personnage à partir d'eux-mêmes. Alors on peut le voir comme ça, hein, c'est peut-être une vision fausse et peut-être qu'ils me démentiraient, mais c'est vrai que quelque part, ils mettent en pratique, ils vont créer d'eux-mêmes un personnage. Mmh. Et je pense qu'il y a cette ambiguïté aussi.
Une prise de pouvoir, en tout cas.
Oui.
Dans ce monde effroyable où on nous contient le plus possible pour pas qu'on sorte justement de nos limites, il y a d'un seul coup quelqu'un qui se prépare à devenir autre ou bien peut-être une autre partie de lui-même et qui décide et qui fait acte.
Et c'est peut-être justement tellement on est contraint au bout du compte, hein, par toutes sortes de choses, que la rupture est tellement violente, parce qu'on peut se demander pourquoi ils partent comme ça. On pourrait mieux comprendre que les gens disent « Bon, bah, écoutez, je m'en vais refaire ma vie ailleurs, je change de métier, j'en ai assez. » Bon, et dire aux gens, mais ils ne le disent pas. Et je pense qu'effectivement, c'est tellement, on est en fait quelque part contraint et bloqué, que quand on arrive à franchir ce pas, on va le franchir radicalement sans rien dire.
Et qu'il faut caresser comme pour le plaisir l'autre, celui qui fait rêver les communiantes. Des armes bleues comme la terre, dès qu'il faut se garder au chaud au fond de l'âme, dans les yeux, dans le cœur, dans les bras d'une femme, qu'on garde au fond de soi comme on garde un mystère. Des armes au secret des jours, sous l'herbe, dans le ciel et puis dans l'écriture. Dès qu'ils vous font rêver très tard dans les lectures et qui mettent la poésie dans les discours. Des armes, des armes, des armes, des poètes de service à la gâchette pour mettre le feu aux dernières cigarettes au bout d'un verre français.
Dans le livre qui s'intitule « Au lieu dit », il y a des gens qui partent aussi avec des secrets. Il y a une femme qui revient dans une maison et qui apprend des choses sur sa famille.
Oui, alors dans « Au lieu dit », là c'est plus peut-être de l'ordre, disons, des secrets entre guillemets de famille, enfin des secrets des origines. Donc effectivement, il y a une découverte un petit peu. Et cette découverte, dans le lieu dit, se passe en fait par des gens étrangers au village. Et ça, c'est peut-être intéressant aussi que ce soit justement un regard extérieur qui fait que c'est les étrangers qui vont en fait découvrir certaines réalités profondes du village que les gens eux-mêmes avaient escamoté.
Il y a une conversation entre le personnage qui s'informe, qui cherche à retrouver des traces, et un homme qui est là. Bastien m'évitant, je rejoins la vallée en quête de Vidieu. Il replace de grosses pierres le long de la rive, vous vous souvenez ? j'arrange un peu la cale. C'est là que le passe-cheval arrivait. Le passe-cheval, c'était le petit bac, le grand, la gabarre, traversait la charrette. En face, à côté des aunes, vous voyez, c'était l'autre cale pour accoster. Le fleuve, c'était toute la vie. Pas seulement les poissons et les voyages, mais aussi l'eau pour les villages. Il y a toute une multitude d'informations qui arrivent sur ce lieu, qui est donné par différents personnages. J'ai l'impression que vous avez gratté, que vous êtes allé chercher, que vous avez noté. Là, on est dans le réel aussi. On se dit, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'elle a fait pour ouvrir tant de tiroirs?
Oui, mais là, c'est pour au lieu dit, je voulais rendre hommage aux Lot, aux gens du Lot, à des personnages réels, des personnages, certains, il y a des personnages réels là-dedans, des personnages fictifs, bien sûr, puisque c'est un roman. Et donc, effectivement, tout ce que je dis sur le Lot, c'est des informations réelles, et effectivement, je les ai trouvées dans des ouvrages, non pas en me disant je vais écrire sur, je vais les écrire, mais disons que comme j'avais une maison dans le Lot, je restaurais cette maison, tout ce que je pouvais trouver sur le Lot, je lisais. Mais c'était pas à des fins d'écriture, a priori. Mais ensuite, toute cette connaissance que j'avais du Lot du passé, je l'ai utilisée. Et je l'ai pas, peut-être pas en totalité, mais je l'ai utilisé. Et je voulais à la fois parler du Lot du passé, mais aussi du Lot actuel. Donc raccorder le passé et les traditions du passé et les races, entre guillemets, ceux du Caux, ceux de la vallée ou ceux de la rivière, etc. Donc je voulais donner cette vision-là du Lot, à la fois le passé qui est très présent et qui s'intègre dans les paysages, dans les maisons, parce qu'il y a vraiment dans le Lot une osmose quand même, une harmonie qu'on trouve pas fatalement dans tous les pays, dans toutes les régions. Là, ça a été assez préservé, un peu du fait de la pauvreté quelque part du Lot pendant un certain temps et à cause de plein de choses qui se sont passées, qui ont fait la désertification. Mais c'est vrai que ça protégeait à un moment le pays, quoi. Et en ce qui concerne Vidieux, ça c'est j'ai réutilisé là des informations également d'un ami qui est du Lot et qui me parlait de son oncle, et son oncle vivait comme ça dans une maison. Il m'avait raconté des choses sur cet oncle comme ça lors d'un repas, tout naturellement quand j'ai Vidieux, c'est un personnage que j'ai inventé en soi, mais par contre la table par exemple qui était amarrée au sol, ça c'est des choses que m'avait raconté cet ami. Un écrivain fait ça, c'est un peu comme une sorte d'éponge, un écrivain. Il prend tout ce qu'il entend, tout ce qu'il sent. Alors, il n'en fera peut-être jamais rien, mais parfois, il en fait quelque chose. Et même au niveau des mots, par exemple, parfois, j'écris, puis il y a un mot qui arrive, comme ça, sous ma plume, mais c'est un mot, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce mot? À la limite, moi, j'ai l'impression de ne pas le connaître. Je vais voir dans le dictionnaire, parce que j'ai quand même des doutes, des mots assez rares, et puis je m'aperçois que oui, le mot existe, et qu'en plus, là où il arrive, c'est impeccable, il était fait pour être là, quoi. Ça, c'est assez savoureux, les moments comme ça de l'écriture, parce qu'il y a beaucoup de moments qui sont laborieux et durs, mais ces moments-là où tout à coup, il y a un mot qu'on ne savait même pas connaître, et qui arrive juste pile au bon moment, ça, c'est très très bien. Et Vidieux, par exemple, ça s'est trouvé comme ça, que j'avais un ami qui m'avait parlé de cet homme-là, quoi. Et c'est un personnage que je trouve assez sympathique dans le livre.
On lit un passage.
Je continue l'histoire du petit Bacle, le grand, la gabarre, etc. Ah, c'était le petit Bacle, le grand. La gabarre traversait la charrette. En face, à côté des aunes, vous voyez là-bas. C'est l'autre cale pour accoster. Le fleuve, c'était toute la vie. Pas seulement les poissons et les voyages, mais aussi l'eau pour les villages. Tout au long, des puits étaient aménagés. Il fallait maintenir le fleuve haut pour les alimenter. Pour le bétail, on entrait un attelage dans la rivière avec deux cuves, comme celle des vendanges. On les remplissait au seau. On posait un sac par-dessus pour ne pas en perdre, et les bœufs repartaient vers les fermes. Les femmes, pieds nus, retroussant leurs robes, poussaient leurs bancs de laveuse le plus loin possible, et que je te frotte. Les gars venaient voir. Bien des mariages se faisaient là, et bien des réputations s'y défaisaient. Fallait voir, elle bouillait leur lessive sur un trépied. Ah oui, justement, mon arrière-grand-mère est morte brûlée vive en faisant la lessive. C'était quoi son nom ? Sophie Amor. Amor. Ah, et votre grand-père, c'était lequel des fils ? Le pépiniériste. Ah ça, mais je l'ai bien connu. J'avais 20 ans, lui la quarantaine, solide. Il venait ici ? Non, je prenais ma barque à la nuit et je remontais jusqu'à l'embouchure du Verse. Là, je l'attendais en pêchant. Et quand il arrivait, on remontait le Verse jusqu'à... Enfin, du côté de chez Bastien. C'est comme ça que je l'ai connu. Enfin, plus tard. Mais où allait-il ? Ça s'appelait le lieu dit. Malpéral. Il y plantait des arbres. La nuit, il plantait plutôt autre chose. C'est bien loin, tout ça. Allez, rentrons. Je marche derrière lui et bâille. C'était un sacré gaillard, mon grand-père. Ma grand-mère disait que c'était le plus bel homme qui soit. Faut croire. Les gens de Malpéral venaient de Savoie. Le dernier, le père, on n'a jamais tout à fait su d'où il venait. Etc. Donc là, il y a tout un discours sur les supposées relations et secrets du village. Voilà. J'ai pas retrouvé le passage que je voulais dire sur Holt. Parce que le Lot, avant, c'était Holt. Et c'était très beau, Holt, Holtis. Et j'aimerais bien, moi, qu'on reparle de Holt, comme Saint-Genier d'Holt. On le trouve encore dans quelques noms de villages. Et j'aimerais bien qu'on rebaptise le Lot Holt. Voilà.
Bon, ben c'est un appel de Colette Brognard. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui se permettent n'importe quoi. Là, c'est très sensé. Ça a une raison d'être. C'est une raison antique. Et puis, ça sonne bien, comme vous dites. Ouais. Donc, si on rebaptisait le Lot Holt, comme autrefois. Holt, c'est autre chose aussi. Oui, Colette, la ramasseuse, on redonne les titres des livres que vous avez écrits au lieu dit. Donc, c'est chez Arbouge. Mm-hmm. On le trouvera à la librairie de la Bastide Murat.
Oui.
On trouvera aussi Aléas. Donc, c'est toujours Arbouge Édition.
Ça, c'est une nouvelle.
Mm-hmm. Le livre à l'envers. Toujours Arbouge Édition.
Mm-hmm.
Vos poèmes, on ne peut pas les lire.
Je peux vous en lire un, si vous voulez.
Bien sûr.
Alors ça, c'est le dernier petit livre du reste qui est sorti. C'est un livre d'artiste. Donc Arbouge fait donc des livres d'artistes. Les livres d'artistes sont des livres faits souvent avec un peintre et un écrivain. Ce sont des livres faits en peu d'exemplaires numérotés et signés. C'est un peu comme les gravures. Ils sont souvent faits avec des gravures ou des œuvres uniques. Bon, celui-là est fait en sérigraphie, donc dans un atelier de sérigraphie. Et c'est donc, des beaux livres, hein, ce qu'on appelle les beaux livres. Alors ça, c'est fait en 125 exemplaires. Et tous les artistes d'Arbouge vont en sortir un. Alors, il y en a déjà 3 sorties. Il y en a un quatrième qui va bientôt sortir. Et pour l'été, on devrait en avoir 5-6 à montrer. Voilà, alors donc c'est un petit livre en sérigraphie, il a la forme d'un bandoneon, et donc il se lit recto verso. Mais je vais peut-être... je peux lire éventuellement les deux, à la fois celui qui fait allusion au peintre, et puis après les mots. Ils sont assez différents l'un de l'autre. Si j'étais peintre, je propulserais sur les toiles des fulgurances pour traverser les apparences. Délivrer la réalité visible des ressemblances mesquines. Résilier la raison pour les sens. Esquisser une vérité inventée de toute éternité, en toute tonalité. S'immerger dans les couleurs, se fondre dans les rythmes, s'égarer dans les lignes autour du contour des formes. Feuilleter les transparences, transformer les nuances, découper les ombres emportées, harmoniser les reflets, jouer leurs effets au ricochet, calligraphier des clés ancrées, mêler aux lumières de la terre, dans le temps de l'urgence, des grains de folie et de silence, des mots. Si j'étais un mot, je graverais mes lettres dans l'écorce du jour. Je fraterniserai avec d'autres mots pour concocter de joyeux jurons, des slogans chantants, des didascalies, des palinodies. Nous édicterions les décrets révoquant la médiocrité. et nous rédigerions la déclaration des droits des livres. Article 1er. Les livres naissent libres et beaux. Article 2. Tout livre a droit à l'envie sans discrimination. Article 3. Nul livre ne peut être arrêté, détenu ou exilé dans le silence. Et j'adopterai un écrivain pour conter une histoire, à inventer la vie, à apprivoiser le temps, créant des livres au fil des mots.
Merci Colette, au fil du temps, au fil des mots. On vous embrasse, tiens, on le fait jamais. On vous embrasse, Colette Brognard, et on vous aime beaucoup.
Eh bien, moi aussi.
Au revoir. Format libre. Une émission littéraire. Rencontre avec un auteur, un écrivain, un chemin d'écriture, un lieu, des lieux d'écriture.